48 FM et la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Mende vous présentent la Minute Santé.
Cécile Bergougnon, docteur en biologie, et Laure Mallet-Leprince, diététicienne au sein de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Mende, réseau de santé de professionnels libéraux, nous parlent du diabète de type 2.
Aujourd'hui, on va parler du diabète de type 2.
De type 2 ? Il y a plusieurs diabètes ?
Eh oui, il y a plusieurs diabètes, mais celui-ci est de très loin le plus fréquent et le nombre de personnes concernées augmente de façon inquiétante en France.
Et au fait, c'est quoi le diabète ?
Tu sais que quand on mange, il y a du glucose, du sucre, dans les aliments, et ce glucose va passer dans le sang pour être utilisé comme carburant par les cellules de l'organisme. Il faut que ce glucose passe régulièrement sous l'influence de l'insuline dans les cellules pour qu'elles puissent l'utiliser. Le diabète se définit par une incapacité des organes à faire rentrer le glucose dans les cellules. Le glucose reste alors dans le sang, la glycémie augmente, on parle d'hyperglycémie.
C'est quoi au juste l'insuline ?
L'insuline est une hormone, une substance produite par le pancréas qui est un organe situé dans l'abdomen. L'insuline sert à faire entrer le glucose du sang dans les cellules des organes. Le foie aussi joue un rôle dans la régulation de la glycémie.
Et quelle est la particularité du diabète de type 2 ?
Ce diabète commence généralement à l'âge adulte et le risque de le développer augmente avec l'âge. Au début, il y a une insulinorésistance, c'est-à-dire que le pancréas produit toujours de l'insuline et même augmente sa production, mais les organes réagissent très mal à cette insuline qui devient inefficace. Puis, dans le temps, le pancréas s'épuise et produit de moins en moins d'insuline. Cela aggrave le phénomène.
Et comment savoir si j'ai un risque de développer le diabète de type 2 ?
En fait, certaines personnes sont plus concernées que d'autres et en plus, il y a des facteurs de risque. Déjà, il y a une prédisposition génétique. Si dans ta famille proche il y a des diabétiques, tu as peut-être hérité d'un risque plus grand de développer ce diabète. Ensuite, il y a le surpoids, voire l'obésité, la sédentarité, l'hypertension artérielle, l'usage du tabac ou de l'alcool, le stress, un taux de graisse trop important dans le sang qui sont très favorables au développement de ce diabète. Le mode de vie influence beaucoup son apparition. D'ailleurs, parfois, on l'appelle le diabète gras.
Comment ce diabète survient-il ?
Plus on avance dans l'âge, plus le risque de développer le diabète de type 2 est important. Au début, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est quand arrivent les conséquences que les premiers signes se manifestent. Et malheureusement, c'est déjà bien amorcé et plus ou moins irréversible.
Et quelles peuvent être les conséquences de ce diabète ?
Les conséquences sont nombreuses et le plus gros risque est le risque cardiovasculaire. Surtout si ce diabète de type 2 est associé à un mauvais bilan lipidique et à de l'hypertension artérielle, ce qui est souvent le cas. C'est un cercle vicieux qui s'installe.
Et comment je m'en rends compte ?
C'est quand le taux de glucose dans le sang devient trop important que les premiers signes cliniques apparaissent. Tu as souvent soif, une envie fréquente d'uriner, une perte de poids, surtout de la masse musculaire, des démangeaisons au niveau des zones génitales, une plus grande sensibilité aux infections.
Comment savoir si je suis concernée ? Peut-on le dépister avant que les signes cliniques apparaissent ?
Oui, il faut en parler avec ton médecin traitant avant l'apparition des premiers signes cliniques, surtout si tu sais que tu as des facteurs de risque. Par exemple, la grossesse est une période à risque et il faut être très vigilante à ce moment-là, de même si tu as d'autres problèmes de santé. Sinon, pour le dépister, il faut tout simplement contrôler ta glycémie régulièrement par une simple prise de sang réalisée le matin à jeun. On en profite alors pour contrôler aussi le cholestérol, dont on a déjà parlé récemment, et les triglycérides.
Ah oui, les triglycérides, on avait dit qu'on en reparlerait. Ont-ils un rôle dans ce diabète ?
Eh oui, si leur taux augmente, c'est probablement qu'on est en train de développer un diabète de type 2.
Et on va pouvoir me soigner si c'est le cas ?
Oui, mais c'est pas évident. Il y a un arsenal de médicaments et le médecin va utiliser l'un ou l'autre ou plusieurs en fonction du stade de la maladie et de ton profil.
Ce diabète risque-t-il d'évoluer vers un autre ?
Malheureusement, oui. Au début, on peut utiliser des médicaments sous forme de comprimés qui, par différents modes d'action, vont contrer l'insulinorésistance et vont aider les cellules des organes cibles. Ils vont aussi aider le pancréas et le foie à mieux gérer le stock et l'utilisation du glucose. Mais si la sécrétion d'insuline devient trop faible, il va falloir passer aux injections d'insuline.
Et comment fait-on son suivi ?
On va surveiller que le taux de glucose dans le sang ne s'élève pas trop souvent avec le dosage de l'hémoglobine glyquée que le médecin note HbA1c sur l'ordonnance de la prise de sang. Il faut idéalement que cette hémoglobine glyquée soit inférieure à 6,5%. Le médecin va fixer des objectifs à atteindre et contrôler ce paramètre tous les 3 à 4 mois en plus du contrôle de la glycémie à jeun de temps en temps pour adapter le traitement et les conseils hygiéno-diététiques. Respecter ces objectifs personnalisés va freiner le diabète de type 2 et diminuer le risque de complications.
Et comment fait-on pour éviter de développer ce diabète, surtout si on a déjà des cas dans la famille ?
En fait, il ne faut pas attendre d'être diagnostiqué diabétique de type 2 pour mettre en place des mesures hygiéno-diététiques. Il va donc falloir jouer sur deux tableaux. Tout d'abord, l'activité physique. Il est fortement recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne, 5 jours sur 7 au moins. Ensuite, il faut une hygiène alimentaire adaptée, mais je crois que tu es mieux placé que moi pour en parler. C'est quoi l'alimentation du diabétique de type 2 ?
C'est ni plus ni moins ce qu'on appelle une alimentation équilibrée.
Ah bon ? Mais en quoi ça consiste cette alimentation ?
C'est avant tout une alimentation qui privilégie des aliments bruts, c'est-à-dire peu transformés, ou peu industriels en fait. Des aliments variés, issus de différents groupes alimentaires et qui répondent donc aux différents besoins de l'organisme.
Mais si le diabète de type 2 est déjà installé, quels sont les aliments à éviter ?
Ah, décidément, faut toujours parler de ce qu'il faut éviter, alors que je préfère aborder ce qu'il est préférable de manger. Bon, je me lance. On en a déjà parlé lors de l'épisode sur le cholestérol. Il faut éviter, par exemple, de surconsommer certaines graisses, telles que celles présentes dans la plupart des chips, des charcuteries et de la nourriture de fast-food. Combiné à des aliments eux aussi très riches en sucre rajouté par l'industrie alimentaire, biscuits, beignets, viennoiseries industrielles, crème dessert, c'est un combo plutôt mauvais pour le diabétique. Et pour tous, si on veut éviter de développer un diabète.
Et tu n'as pas parlé des sodas, c'est sucré aussi. Donc il vaut mieux boire un soda sans sucre.
Ah, c'est moins simple que ça en a l'air. Le soda sans sucre contient en général des édulcorants, c'est-à-dire plus ou moins des faux sucres. Or, on s'est rendu compte que ces faux sucres peuvent mimer l'action du glucose dans le corps et provoquer une sécrétion d'insuline. Ça ne va pas nous aider à prendre soin de notre machinerie. Pire encore, ils ont un impact néfaste sur notre microbiote, ces bactéries qui peuplent nos intestins et qui ont une importance majeure pour notre bonne santé s'il est en bon équilibre. Mais c'est un autre sujet. Verdict, le soda classique, c'est toujours mieux que sans sucre, mais cela doit rester exceptionnel. Un verre d'eau, c'est toujours mieux. Et on peut l'aromatiser avec du citron pressé ou avec de la menthe ou encore faire des infusions froides. Il y a plein d'astuces qui évitent l'ajout de sucre et offrent une belle variété de saveurs.
Ok, je vois. Et donc, pour en revenir à l'alimentation, j'imagine qu'il y a des aliments à privilégier.
Mais oui, tu t'en doutes, on va plutôt se tourner vers des aliments riches en fibres qui aident à ralentir l'absorption du glucose. Ce sont donc principalement les légumes, les fruits, les légumes secs, mais aussi les céréales plutôt complètes ou semi-complètes qu'on va retrouver au quotidien dans son assiette.
Qu'est-ce que je peux manger à midi par exemple ? Une salade verte avec un filet de poulet sans huile et un yaourt, c'est pas mal, non ?
Ah, mais on n'est pas dans un régime de magazine. Partons de ton exemple. Tu peux assaisonner ta salade verte avec de l'huile de colza ou de lin. Y ajouter quelques noix, faire cuire ton poulet avec de l'huile d'olive par exemple, le combiner à des pâtes semi-complètes et une poêlée de courgettes, et enfin terminer par un yaourt nature dans lequel tu ajoutes quelques morceaux de fruits frais. Mais tout ne réside pas uniquement dans le contenu de l'assiette. Il y a aussi ce qu'on appelle le comportement alimentaire.
Ah d'accord, mais ça veut dire quoi au juste ?
Il s'agit de ce qui tourne autour du fait de s'alimenter, comme le fait de prendre plusieurs repas par jour, de prendre le temps de mâcher les aliments, de manger plutôt comme une tortue que comme un lièvre, de s'interroger sur ses sensations de faim avant et après un repas. La liste est longue, mais tout ça peut s'améliorer quand c'est nécessaire.
D'accord, je commence à comprendre. Au fait, pourquoi c'est important de prendre plusieurs repas par jour et non pas un seul gros repas ?
Tout simplement parce que le corps a des besoins continus en nutriments. C'est donc mieux de répartir les prises alimentaires en 3 repas dans la journée en moyenne. On peut aussi ajouter une collation quand c'est nécessaire, bien sûr. Ce sera aussi plus facile à digérer qu'un seul gros repas dans la journée. Et ça permettra d'éviter de trop grandes variations de la glycémie. Et pense à bouger tous les jours. L'activité physique, c'est vraiment essentiel pour te maintenir en forme.
Oui, merci Laure. Allez, on rentre à pied pour passer chez le primeur ?